Chapitre 14 Thémis. Que l'univers soit une vaste scène de théâtre sur laquelle les hommes, acteurs inconscients, et d'autant plus naturels, jouent pour le bon plaisir d'un démiurge artiste à la manière de Néron, j'éprouverai quelque tendance à le croire. J'avais beau me creuser la cervelle, inférer de ce que j'avais vu des déductions logiques, je ne parvenais pas à comprendre la signification du drame qui s'était déroulé devant moi. Mon rôle, pour avoir été muet, n'en était que plus incompréhensible. À quelle sombre tragédie avais-je été mêlé? Voyons, réfléchissons. Et je récapitulais dans ma mémoire tous les incidents de ma liaison avec Conchita. À quel instant apparaissait Margot? Je pouvais raisonnablement m'en apercevoir. Tiré de l'intéressé des éclaircissements, la tâche n'était point aisée. On prétend que le mutisme d'une carpe, sourde par-dessus le marché, n'est rien en comparaison de celui d'une femme résolue à se taire. Et ma petite Conchita, je t'en supplie, que veut dire tout ceci? Bien sûr, mon attitude était un peu ridicule. Demander devant le cadavre de la victime des explications à l'assassin sur les raisons du crime, c'est peut-être l'affaire du juge d'instruction, ce n'est en tout cas pas celle de l'amant. Mais je ne pouvais tout de même décemment garder un macabre dans mon logis, sans connaître son identité et les motifs de sa mort. Mais Conchita avait probablement des raisons que la raison ne connaît pas. À toutes mes questions, elle répondait, si l'on peut dire, par le silence ou par de faibles gémissements. « Non, mon chéri, non, laisse-moi, ne me demande rien. Par pitié, n'insiste pas. » J'aurais bien voulu insister, car la curiosité me poinçonnait comme une vraie fille d'Ève. Mais l'expérience m'avait déjà prouvé que je n'y gagnerais rien à rivaliser d'obstination avec Conchita. Au demeurant, d'autres soucis commençaient de m'assaillir. T'imagines point, petit, combien il est désagréable d'être le monsieur chez qui un assassinat a été commis. Oui, oui, il y a la gloire. On risque de voir son portrait s'étaler, tout comme celui de l'assassin à la première page des journaux. Mais c'est une renommée à laquelle je suis peu sensible. Tout arrive, même la police. Celle-ci se présenta à mon domicile en la personne d'un commissaire qui, par mes domestiques, avait été avisé du crime. Ce fut d'ailleurs avec une parfaite correction qu'il appréhenda ma maîtresse. Celle-ci était très pâle. « Je suis prête à vous suivre, monsieur. Je ne peux rien nier. » Je m'attendais à des pleurs, à des cris, contre lesquels je m'étais apprêté à me cuirasser. Mais la résignation douloureuse de ma pauvre amie me fendait le cœur. « Excusez, monsieur, la pénible mission que je suis obligé d'accomplir. » Madame Conchita se jeta dans mes bras. De grosses larmes brûlantes coulèrent lentement sur ses joues. « Ma pauvre chérie, que pouvais-je faire pour toi ?»« Pierre, mon petit, conserve-moi toujours ton affection. Je suis absolument déchiré, mais quoi qu'on te dise de moi, ne doute jamais de mon amour. » « Rappelle-toi que c'est à cause de toi, mon chéri, que j'ai tué. »« Conchita, Conchita, je ne veux pas te perdre. » En dépit de la maîtrise que je tenais d'exercer sur moi-même, je fus saisi d'une crise de désespoir farouche quand je vis s'éloigner ma malheureuse amante. Il faut avoir aimé pour comprendre la douleur qui envahit mon âme quand je me retrouvais seul. L'amour unit les êtres de liens quasi matériels, et la séparation, en brisant ces réseaux, cause une blessure en quelque sorte physique. Conchita partit, je souffris comme après une opération chirurgicale. Ma maîtresse avait été depuis quelques mois mêlée si intimement à ma vie que je ne trouvais pas désenterré qu'un aveugle privé de son caniche. Ma douleur s'augmentait de la pensée de l'atroce situation dans laquelle se trouvait mon ami. Je n'avais pas, quoique avocat, une très grande pratique des prisons républicaines. Je n'étais pas loin de me représenter Conchita se débattant sur la paille humide des cachots. Je m'étais calfeutré chez moi, ne voulant recevoir aucun des curieux qui attiraient mon infortune, car la presse, naturellement, s'était emparée de l'affaire. Son tour mystérieux intriguait tout le monde. Les motifs du crime demeuraient perdus dans une obscurité incompréhensible. Les reporters ne tarissaient pas d'informations sensationnelles sur la jeune femme que les uns traitaient de bayadère de temple secret de l'Inde et les autres de princesse persane. J'attendais avec une hâte fiévreuse la venue du procès, mais aussi avec une certaine appréhension. Pourrais-je supporter les émotions de l'audience? Je n'avais point revu Conchita depuis son arrestation. Dans quel état la retrouverais-je? J'étais plus gorgé d'opium qu'un mandarin chinois à 32 boutons de cristal. Quand je me rendis au palais de justice pour assister au jugement de ma maîtresse, ce procès, qui avait été qualifié de très parisien, avait attiré comme tel une foule considérable, élégante et parfumée. De tout temps, le crime et le vice ont exercé sur les âmes féminines un irrésistible attrait. La salle d'audience du palais de justice était encombrée et bruissante comme une volière. « Croyez-vous, ma chère, il paraît que cette Conchita était la favorite du grand lama. Oui, on dit qu'elle faisait de la magie et qu'elle va au sabbat. Oui, sa femme de chambre l'a surprise un jour toute nue, en train de se frictionner avec une pommade de sorcière. Et ce Pierre Santin, quel rôle joue-t-il là-dedans ? » Tel était le genre de conversation que j'entendais. Chacune se prétendant mieux renseignée, renchérissait sur les dires de sa voisine, et je finissais par le trouver chargé de plus de noirceur que le criminel le plus endurci. Cependant, j'avais rejoint le banc des témoins. Les chuchotements de l'assemblée me parvenaient assourdis et lointains. J'avais l'esprit tellement concentré sur l'image de ma maîtresse que je ne m'apercevais pas que j'étais le point de mire de tous les yeux. L'auditoire me paraissait baigné de brume comme les prairies par les matins d'automne. Un « ah » prolongé, un frémissement qui parcourt l'assemblée, me tirèrent de la somnolence dans laquelle j'étais plongé. On introduisait l'accusé. Pauvre Conchita. Elle s'avançait entre deux gardes républicains, les yeux modestement baissés. Son visage amaigri paraissait encore plus pâle sous sa toque noire. Tout mon être se tendit vers elle quand elle s'assit et que j'aperçus ses larges yeux noirs, brillants d'avoir beaucoup pleuré. Ses yeux dans lesquels j'avais si souvent miré ma tendresse. Je la fixais avec une telle passion, un tel désir d'amour, qu'elle tressaillit sous l'ardent rayon de mon regard, comme sous le rayon électrique, et qu'elle tourna vers moi sa figure amincie, avec tant de ferveur autrefois caressée. Un pâle sourire, plus émouvant mille fois que les pleurs les plus tragiques, détendit un instant ses traits. Ma tête chavira. Comment n'ai-je pas défailli à cet instant? Chapitre 15. L'éternel féminin. Le silence le plus absolu avait succédé à la bruyante agitation de tout à l'heure. Après l'appel des témoins, Conchita commençait à répondre à l'interrogatoire que lui faisait subir le président des assises. Les demandes étaient adressées d'une voix monotone. « Mais enfin, comment vous appelez-vous ? » insista avec une certaine impatience le magistrat. « Au cours de l'instruction, toutes vos réponses ont été contradictoires. Quel est votre nom patronymique exact? Quelle est votre nationalité? Vous vous prétendez originaire de Java, mais des témoins affirment que vous n'avez jamais quitté Paris. Il y va de votre intérêt. Expliquez-vous franchement. Ai-je besoin de te dire, mon petit, avec quelle anxiété passionnée j'attendis les mots qui allaient sortir des lèvres de ma maîtresse? Durant toute l'instruction, la jeune femme avait en effet refusé de répondre à toutes les questions. Elle parla d'abord si bas que j'avais peine à l'entendre. Et peut-être eût-il mieux valu, en effet, que je ne l'entendisse point. « Monsieur le Président, ne me tourmentez plus. Je vais vous expliquer. Non, je ne suis pas javanaise. Vous avez raison, je n'ai jamais mis les pieds sur un bateau, à moins que ce ne fût un bateau mouche. Conchita n'est pas mon nom. Je m'appelle Marguerite Valin. Je suis née à Belleville, dans la rue du Jourdain. Mon père était ouvrier zingueur. Il mourut alcoolique lors de ma plus tendre enfance. Et je fus élevé par ma mère, une créole que mon père avait connue, je ne sais trop où ni comment. Elle avait le teint basané, les yeux largement fendus et luisants. Et c'est elle que je tiens ce type exotique qu'on se plaît quelquefois à admirer en moi. J'en tirai d'ailleurs parti. Ma mère me fit apprendre la danse, pour laquelle toute gamine je marquais déjà de singulières dispositions. Les Pasadou n'eurent bientôt plus de secret pour moi, et je ne tardais pas à être engagé comme bayadère du Maharaja de Kapurthala dans les plus grands music-halls parisiens. Et ce fut l'époque où j'adoptais le nom de Conchita. Sa consonance n'avait rien de particulièrement hindou, mais on n'y regarde pas de si près au music-hall. À l'Olympia, où je mimais les danses sacrées du bord du Gange, je me liais avec des jongleurs javanais qui se plaisaient à m'entretenir des coutumes de leur pays. Dans les coulisses, pendant que j'attendais mon tour d'entrée en scène, j'écoutais les récits de mes camarades qui me passionnaient autant que des contes de mille et une nuits. Vous savez, monsieur le Président, que l'atmosphère du music-hall et du cirque ne favorise guère l'honnêteté. Ma mère était morte. Je n'avais plus aucune famille. Pouvais-je demeurer seul? Et le hasard me fit rencontrer dans un bar de Montmartre, où je fréquentais parfois un musicien dont l'amabilité me séduisit. L'affection d'Émile se changea vite en tyrannie. Émile appartenait à ce genre spécial d'individus qui tirent de l'amour le plus clair de leurs revenus. Émile s'était rapidement accoutumé à me considérer comme une rente. « Mais pourquoi restiez-vous avec lui, allez-vous me dire ?»« Évidemment, monsieur le Président, j'aurais bien voulu fuir. Mais croyez-vous que ce soit facile d'abandonner un homme qui par tous les moyens est décidé à vous garder ? C'est pourquoi, résigné, désespérant d'échapper à mon destin, je restais attaché à la chaîne qu'Émile m'avait noué autour du cou. Allez, monsieur le Président, la vie d'une pauvre fille de music-hall ne s'écoule pas dans un enchantement doré, comme le vulgaire le croit généralement. Je menais l'existence d'une esclave. Émile avait imaginé de m'emmener danser dans des bars louches des quartiers extérieurs. Il grattait médiocrement du banjo, dont il accompagnait mes danses. Je faisais ensuite la quête, et c'est ainsi que je fis un soir la connaissance de M. Pierre Saintin. Elle prononça ce nom comme un souffle et jeta sur moi un regard timide et implorant, si implorant que la colère dont j'avais été agité en apprenant la vraie personnalité de Conchita s'apaisa comme après l'orage la mer en temps de bonasse. J'éprouvais une telle émotion qu'en dépit de ma timidité habituelle, je ne me souciais plus des regards braqués sur moi. Dieu sait pourtant si toutes les perruches qui jacassaient dans la salle m'observaient avec curiosité et si les commentaires allèrent leur train. « Monsieur le Président, poursuivit Conchita, est-il nécessaire de continuer cette confession ? Si vous saviez comme elle m'est douloureuse. Il le faut. Toute la vérité est indispensable pour l'instruction des jurés. Ah, monsieur le président, on devra requérir l'habitude à la sincérité de notre amour, à nous autres pauvres filles. Et pourtant, ce fut une profonde affection que je ressentis pour monsieur Pierre Saintin. Mais pourquoi alors lui avoir menti tout le temps que dura votre liaison? Pourquoi avoir imaginé cette mise en scène? Parce que je l'aimais, monsieur le président. Je m'étais informé de ses goûts et j'avais appris combien il était féru d'exotisme. Et c'est afin de lui plaire et de se l'attacher encore plus tendrement que j'ai résolu de me faire passer pour javanaise et que j'inventais le roman de mes aventures dans l'île lointaine. Les renseignements que m'avaient fournis mes amis, les jongleurs de l'Olympia, me permettaient de soutenir mon rôle avec une vraisemblance et sans commettre d'impair. J'avais réussi à échapper aux griffes d'Émile. Je commençais à goûter la tranquillité. Mais le malheur planait toujours sur ma tête. Au cours d'une promenade, je reconnus l'homme qui avait fait de ma vie un enfer. Chose plus grave, je fus reconnu aussi. Et dès lors, je recommençais à vivre dans une angoisse perpétuelle, en proie à des transes qui me torturaient douloureusement. Quelle était l'intention d'Émile en me persécutant ainsi? Obéissait-il à un reste d'amour? Ou bien l'intérêt seul le faisait-il agir? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il m'obligeait à accepter des rendez-vous sous la menace de révéler ma véritable identité à M. Pierre Saintin. C'était ce que je voulais éviter par-dessus tout. Ah, monsieur le président, on ne doute pas du martyre que j'endurais, craignant à chaque instant de voir surgir mon bourreau dans notre intérieur où j'avais goûté l'apaisement. J'inventais des ruses d'apache pour obéir à ses injonctions, sans que M. Saintin remarquât trop mes absences. Je lui promis de l'argent, mais la somme qu'il me déclarait réclamait et dépassait de beaucoup mes disponibilités. J'étais résolu à tout pour me débarrasser de cet individu que je haïssais. Pour m'assurer son mutisme, j'aurais, si je l'avais pu, cambrioler. Mais la chose est plus facile à dire qu'à faire. Je le trouvais dans l'impossibilité de fermer la bouche au maître chanteur. Monsieur le Président, je vous en ai assez dit. Vous connaissez maintenant mes muettes, cruelles appréhensions. Et vous comprendrez mon affolement quand je vis surgir chez nous, devant Pierre, l'être exécré qui me lança ce cri « Margot !» Le bouffet d'indignation m'envahit le cerveau. Un revolver était à portée de ma main, je tirai. Épuisée par cette confession, Conchita retomba sur son banc. Chapitre 16 et dernier. Nouveau départ. Le bon vieillard s'était tu un moment. Une barre douloureuse plissait son front. Il me regardait avec une grande tristesse. Tu me vois aujourd'hui, affable et souriant envers tout le monde. Que veux-tu? Il faut bien adopter un masque derrière lequel on ne met sa vraie personnalité à l'abri des indiscrets. Sans hypocrisie et sans mensonge, que deviendrait la vie sociale? Je te le demande un peu. Ne me crois pas le philanthrope indulgent et béat qui réserve pour ses semblables des trésors de bénédiction. Nul ne considère avec plus de mépris que moi l'espèce humaine. Oh, je ne vais pourtant pas jusqu'à la détester, elle ne le mérite même point. Peut-on dire seulement, si le même méchant est cruel, non, il est bas, c'est tout. Nulle flamme généreuse ne brûle dans sa carcasse, il ne s'occupe que d'intérêts mesquins. Ses joies sont étriquées comme ses désirs. Je sortis du palais de justice où ma pauvre amie venait de récolter 5 années de prison. Écœuré, l'estomac soulevé de ce dégoût que l'on ressent à la vue d'un mets gâté et malodorant. la malveillance grossière que je sentais confusément autour de moi, les plaisanteries sordides qui s'échangeaient derrière mon dos, me causaient une véritable nausée. Ah, la nausée du mal de mer. L'horizon vaste et lumineux, les larges gorgées d'air salubre qui vous grisent comme un vin clair. Ici, l'air empuanti d'une salle, viciée par tant d'haleines vénéneuses, la bassesse de ce public friand de scandale. Des petits rires, des exclamations ironiques fusaient tout autour de moi, comme si dans une forêt enchantée, une troupe de merles gouailleurs eût sifflé à mon approche. « Nous voici revenus au temps des métamorphoses !» disait l'une. « De Conchita à Margot. Oh, il doit parler le javanais à ravir !» susurrait une autre. « Et danser la java !» renchérissait une troisième. Je ne sais vraiment comment ces misérables gouailleries sont demeurées dans ma mémoire. J'étais comme ces guerriers qui abandonnent le lieu du combat, tandis que les fidèles se piquent dans leurs cuirasses. Rentré chez moi, je m'allongeais sur ma natte et goûtais une amère tristesse à me trouver séparé de ma maîtresse, qui depuis plusieurs mois alimentait si ingénieusement mes rêveries exotiques. Qu'y avait-il de changé ? Devais-je admettre, comme l'insinuaient les perruches du palais de justice, que j'avais été mystifié ? Allons donc. Pourquoi Conchita aurait-elle monté tout à coup cette histoire d'une Margot dramatiquement soumise à un Émile des boulevards extérieurs ? Ouf, j'en savais rien. Quelle était son identité véritable ? Je ne m'en souciais guère. Sa personnalité, celle qui cadrait le mieux avec mes songes. Que diable aurais-je fait d'une Margot de Belleville ? Par contre, une Conchita, troublante, nourrie d'exotisme, s'encastrait dans mon existence avec autant de précision que telle pierre taillée dans un mur où rien n'y manque. Avais-je rêvé ces persécutions dont nous poursuivait Bantam ? Était-ce une mystification, ces bourdonnements singuliers qui nous troublaient jusque dans la volupté ? Et Conchita, se mystifiait-elle donc elle-même en demeurant des nuits, l'oreille aux aguets, fiévreuse et tressaillant au plus imperceptible bruit ? Les prétendues révélations de mon ami avaient par conséquent glissé sur moi sans entamer ma confiance. Qu'avais-je besoin de ce mot qu'elle me fit tenir le lendemain par son avocat ? « Mon Pierre chéri, me disait-elle, tu as bien compris que je récitais une histoire inventée par mon avocat afin de me sauver. Il paraît que c'était nécessaire pour obtenir l'indulgence des juges. Mon bien-aimé, je suis fier de mon crime. L'émissaire de Batam a vécu. Il ne nous persécutera plus. Et nous pourrons enfin, mon amour, nous aimer librement. » Comme tout s'arrangeait à merveille. Je me surpris à regretter que cette aventure passionnante se termina aussi banalement. 5 années de prison, quoi de plus bourgeois. Je me voyais déjà reprenant la vie commune, après 5 ans, avec ma bien-aimée empâtée. Qui sait si l'air égalitaire qu'on respire dans les prisons de France n'aurait pas dissipé le parfum d'épices et d'inconnus qui m'avait tant charmé. J'avais désormais suffisamment de souvenirs pour nourrir quelque temps mon imagination avide. Je rassurais ma conscience, mal satisfaite, en faisant tenir à la prisonnière une somme d'argent qui devait adoucir sa captivité. Mais c'était là tout ce dont j'étais capable pour cette jolie fille, dont le sourire m'avait paru un moment plus précieux que tous les trésors de la terre. Je m'appliquai alors en conscience à la perdre de vue. L'oubli est propice au mystère et à l'éclosion des rêves. Avec les quelques objets personnels qu'elle m'avait laissés, et qui conservait encore la trace de son parfum, je me constituais un petit monde où, bien des fois, je me réfugiais en haine de celui-ci. Et les yeux de mon nouvel ami s'embuèrent de quelques larmes. Ma jeunesse, souvenir lointain. Bien, je n'ai plus jamais revu Conchita. Il me reste pourtant de cette aventure un souvenir charmant. Tiens, viens voir. Et pour la première fois, M. Saintin m'amena devant le tableau que j'avais si souvent admiré en tapis noir. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle, reprit nerveusement le vieillard. Une nuit, il y a longtemps, je fus cambriolé. Et le commissaire de police me raconta une histoire de brigand dans laquelle il mêla le nom de Margot. Bon, qu'est-ce qu'une Margot pouvait avoir à faire avec moi ? Jean d'Orsène.